Hoffmann, conte mystérieux, l'enchaînement des choses. Chapitre 1. Non, dit Ludovic à son ami Eucharles, non, il n'y a pas de hasard. Je n'en déborderai pas. Tout le système du monde et tout ce que contient ressemble au rouage artistement rassemblé d'un pendule qui s'arrêterait à l'instant, aussitôt qu'il serait permis à un principe étranger de toucher seulement la plus petite roue. Je ne sais pas, répondit Achard en riant. Mon cher Ludovic, comment tu en viens une fois à cette fatale idée du mécanisme déjà passé de mode? Et comment tu oses défigurer cette belle idée de Gaulle d'un fil rouge qui traverse notre vie et que nous reconnaissons en le regardant attentivement pour un esprit supérieur placé par nous, sur nous, pour nous diriger? Non, non, mon cher ami, reprit Ludovic, tout ce qui arrive, par cela même que cela arrive, était une condition nécessaire dès l'origine. Et cela est l'enchaînement des choses sur lequel est basé tout le système de la vie. Car, faut observer, dans le moment, il est toutefois nécessaire d'informer le lecteur que Ludovic et Eucharles, tout en conversant ainsi, se promenaient dans une allée du beau parc de V. C'était un dimanche. Le crépuscule commençait à descendre. Le vent du soir courait doucement en murmurant à travers les bosquets qui, se reposant de la chaleur du jour, respiraient avec de légers soupirs. Par toute la forêt, on entendait ressentir les joies joyeuses des bourgeois sortis de la famille ville en habit de fête, les uns campés sur le gazon, couverts de fleurs, prenant leur repas du soir, d'autres dans les diverses auberges repliées du bon pli du monde, se divertissaient à leur guise, selon le gain plus ou moins grand de la semaine. Et au moment où Ludovic allait terminer son discours, il heurta du pied une forte racine d'arbre qu'il n'avait pas vue malgré les lunettes dont il était armé, et tomba tout de son long dans l'allée. « Ben, cela vient de l'enchaînement des choses. Et si tu étais, par tout justement ici, le monde se sentit probablement écroulé aussitôt, dit froidement Eucharles en ramassant la canne et le chapeau de son ami, qui, dans la chute, s'était envolé assez loin et lui tendit la main pour le relever. Ludovic se sentit le genou tellement endolori qu'il fut contraint de boiter. De plus, il saignait le nez assez violemment. Il suivit donc le conseil que lui donnait son ami d'entrer dans la plus profonde prochaine auberge. Sur un banc de gazon entouré d'arbres, placé devant cette auberge, des voyageurs avaient formé un cercle épais, du milieu duquel on entendait sortir les sons d'une guitare et d'un tambourin. Et en approchant de ce cercle, on apercevait un spectacle à la fois étrange et gracieux. Dans ce beau milieu de l'espace laissé par les spectateurs, une jeune fille, les yeux bandés, dansait le fandango entre 9 œufs placés 3x3 sur le plancher, tout en s'accompagnant du tambourin. À ses côtés se tenait un petit homme mal bâti, porteur d'une laide figure de bohémien. Cet homme jouait de la guitare. La danseuse paraissait âgée de 16 ans à peine. Son costume était singulier. Elle avait un corset rouge garni d'or et une petite robe courte. Toute sa personne était pleine d'une grâce qui brillait dans le moindre de ses mouvements. Elle savait tirer des sons étrangement variés du tambourin qu'elle leva tantôt au-dessus de sa tête, tantôt en étendant les bras dans une pose artistique. Elle agitait parfois aussi derrière son dos. Quelquefois, on croyait entendre le son sourd des cymbales frappées dans le lointain, tantôt le roucoulement plaintif de la colombe, ou bien aussi le mugissement de l'orage lorsqu'il est proche, et alors retentissait comme le bruit clair de cloches harmonieuses. Le petit guitariste ne cédait en rien à la jeune fille dans l'habileté de son jeu. Il savait manier son instrument avec un art particulier, et tout en conservant claire et distincte la mélodie de la danse, il la faisait résumer quelquefois en promenant toutes ses mains sur les cordes de la manière espagnole, et d'autres fois, il en tirait des accords pleins et sonores. Le tambourin mugissait avec une force et une puissance qui allait en s'augmentant toujours. La guitare retentissait plus éclatante, et les mouvements et les bords de la jeune fille devenaient aussi plus hardis. Elle posait souvent le pied à la distance d'un cheveu, des œufs mis par terre, avec une telle justesse que les spectateurs ne pouvaient s'empêcher de pousser des cris, persuadés que l'un d'eux était brisé. Les boucles des noirs cheveux de la jeune fille s'étaient détachées et dans sa danse sauvage, elle flottait au-dessus de sa tête et la faisait ressembler à une ménade. « Fini !» lui cria le petit homme en langue espagnole. Alors, toujours en dansant, elle toucha chaque œuf l'un après l'autre d'une manière qu'ils virent en roulant, se réunir en un seul tas, et avec un coup fortement frappé sur le tambourin et accompagné d'un énergique accord de la guitare, elle s'arrêta tout à coup comme pour un pouvoir magique. La danse était terminée. Le petit homme s'approcha d'elle et ôta le bandeau qui couvrait les yeux. Elle remit ses cheveux en ordre, prit le tambourin et, les yeux baissés, fit le tour du cercle pour demander à la ronde. Personne ne s'était éloigné et chacun mit d'un air satisfait une pièce de monnaie dans le tambourin. Elle passa près de Charles sans s'arrêter devant lui et s'en alla lorsque celui-ci fit un pas vers elle. « Pourquoi ne veux-tu rien accepter de moi ?» lui demanda-t-il. « Ben le vieux, répondit-elle d'une voix assurée avec un accent étranger, m'a dit que vous étiez arrivé lorsque ma danse était prête de finir, et que par conséquent je ne devais rien accepter de vous. » Et en disant ces paroles, elle leva les yeux et leur brûlant regard à travers la nuit de ses paupières noires. Puis, après un charmant saut, elle se retourna vers le petit homme auquel elle ôta sa guitare des mains et qu'elle conduisit à une table plus éloignée. En la suivant des yeux, le char aperçut Ludovic assis à une table un peu plus loin entre deux bourgeois et alla lui raconter la gracieuse danse des œufs de la jeune Espagnole. « C'est mignon !» s'écria Ludovic, enchanté. « Mais c'est la céleste, la divine mignon !» Le guitariste comptait l'argent de la quête sur la table, tandis que la jeune fille, se tenant debout, exprimait dans un verre le suc d'une pomme de Chine. Le vieillard rassembla enfin son argent, sourit à la jeune fille d'un œil brillant de joie, et celle-ci lui présenta le breuvage préparé en caressant doucement ses joues ridées. Le petit homme jeta un éclat de rire désagréable à entendre et tout avidement La jeune fille vint s'asseoir auprès de lui, en lui touchant les cordes de sa guitare. « Oh, mignon, céleste, angélique, mignon !» répéta encore Ludovic. « Oui, je veux, second maître Wilhelm, te sauver des mains d'un monstre hypocrite qui t'exploite. Dois-tu, interrompit froidement Eschar, que ce petit bossu est un scélérat hypocrite ?»« Homme froid, répondit Ludovic, qui ne comprend rien, ne voit rien, n'a plus aucun sentiment pour tout ce qui est fantaisiste. Ne vois-tu pas, mais ne remarques-tu pas, comme la méchanceté, l'envie, la malice, l'esprit le plus bas, enfin, se lisent dans les petits yeux verts, les petits yeux de chat de ce bohémien d'affiche et difforme. Oui, oh, je la sauverai, cette charmante enfant, des griffes diaboliques de ce monstre basané. Ah, si je pouvais seulement lui parler à cette gracieuse créature. Mais rien n'est plus facile, répondit le chat. Et il fit signe à l'enfant de venir auprès d'eux. Aussitôt, celle-ci posa l'instrument sur la table, s'approcha et les salua en baissant les yeux. « Mignon !» s'écria Ludovic. « Charmante, adorable, mignon !»« Je me nomme Manuela !» reprit la jeune fille. « Et cet affreux misérable !» continua Ludovic. « Où t'a-t-il volé ? Pauvre petite, où t'a-t-il entouré de ces lacets maudits ?»« Je ne vous comprends pas, monsieur, » dit-elle, en levant les yeux et en pénétrant Ludovic de son brillant regard. « Je ne sais pas ce que vous voulez demander. Tu es espagnol, mon enfant, » interrompit Eschar. Oui, répondit la jeune fille d'une voix tremblante. Vous le voyez, vous l'entendez, je ne peux pas dire le contraire. Ainsi, continua Eschar, tu sais jouer de la guitare et chanter. La jeune fille se mit la main devant les yeux et répondit d'une voix qu'on entendait à peine. « Ah, messieurs, je pourrais chanter, mais mes chansons sont brûlantes. Il fait si froid ici. »« Connais-tu, lui dit Eschar espagnol, et avec une voix plus éclatante, connais-tu la chanson « L'aure immortale » ?» La jeune fille joignit les mains, leva son regard vers le ciel. Des larmes brillaient dans ses yeux. Elle s'élança, prit la guitare sur la table et revint plutôt en volant qu'en courant auprès des amis et commença en se plaçant devant Eschar. Laurier, immortel au grand paradoxe, gloire de l'Espagne, terreur de la France, etc. Il est impossible de dépeindre l'expression avec laquelle chanta la jeune fille. Un enthousiasme brûlant tirait sa flamme d'une douleur mortelle. Chaque son semblait être un éclair qui faisait voler en éclats la glace qui oppressait sa poitrine. Oh, Ludovic était électrisé. Il interrompit le chant de la jeune fille par ses retentissants « Bravo, bravissima !» et mille autres semblables cris d'approbation. « Fais-moi le plaisir de te taire un peu, mon très cher ami, » lui dit Eschar. « Oh, je sais, » répondit Ludovic de mauvaise humeur, « que la musique et toi n'ont aucun effet sur un homme aussi peu impressionnant que toi. » Toutefois, il se tut. La jeune fille, épuisée, s'appuya lorsqu'elle eut terminé sa chanson contre un arbre voisin, et tout en touchant négligemment des accords qui se perdirent en pianissimo, elle couvrit l'instrument de larmes. « Tu es, » lui dit Eschar d'une voix qui sortait évidemment d'une poitrine émue, Tu es pauvre, ma chère enfant, et si j'ai pas vu ta danse depuis le commencement, j'en ai été amplement dédommagé par ton chant. Et tu ne peux plus refuser mon cadeau. » Et Euchard avait tiré d'une petite bourse où brillaient de beaux ducats et la donna à la jeune fille qui s'était approchée de lui. Celle-ci attacha ses yeux sur la main d'Euchard, la prit dans les siennes et la couvrit de baisers, et se précipitant devant lui à genoux et en s'écriant « Oh, Dios !»« Oui !» s'écria Ludovic, plein d'enthousiasme. « L'or, l'or seul, ne peut être touché par de petites mains si douces. » Et il demanda à Euchard s'il ne pouvait pas lui changer un thaler, parce qu'il n'était pas sûr, lui, de petite monnaie. Pendant ce temps, le petit bossu s'était approché. Il ramassa la guitare que Manuela avait laissée tomber à terre et se courba sur l'autre main de Char, qui avait sans doute généreusement récompensé la jeune fille, puisqu'elle paraissait si émue. « Scélérat voleur !» s'écria Ludovic d'une voix grondante. Le petit homme, effrayé, se rejeta en arrière et, d'une voix larmoyante, « Ah, monsieur, mais pourquoi êtes-vous si irrité ? Ne condamnez pas ainsi le pauvre et honnête Viago Cubas. Ne vous laissez pas influencer par ma couleur et par mon visage difforme. Je ne sais que trop. Je suis né à Lorca, et aussi bon chrétien que vous pouvez l'être vous-même. » La jeune fille se leva rapidement et dit au vieillard en espagnol, « Vite, vite, éloignons-nous, mon petit père. » Et tous les deux partirent. Pendant que Cubas faisait quelques sauts assez étranges, elle jeta à Euchard le regard le plus expressif que pouvaient lancer ses beaux yeux. Et lorsque la forêt eut caché ses personnages singuliers, Euchard dit « Tu vois, Ludovic, que tu t'es trop hâté de juger ce petit monstre. Il est vrai que l'homme a quelque chose du bohémien. Il est de l'Orca, comme il nous a dit lui-même. » « Non, 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 non !» s'écria Ludovic. « Je maintiens ce que j'ai avancé. Cet homme est un affreux scélérat, et je ferai tout ce qu'il éprendra de moi pour tirer ma charmante mignon de ses griffes. Mais si tu regardes, reprit Charles, le petit homme, comme un voleur, pour ma part, je cesserai d'avoir une idée bien favorable de ta douce et charmante mignon. « Que dis-tu ? » s'écria Ludovic. De ne pas avoir confiance dans cette céleste enfant dont les yeux brillent de l'innocence la plus pure. C'est bien là ce qu'il faut entendre d'un homme prosaïque qui ne sait pas ce que c'est que de le sentiment et se méfie de tout ce qui est en dehors de son commerce, de ce que je joue. Alors, ne t'échauffe pas tant, reprit le char. « Mon cher enthousiaste, mes soupçons, que tu ne crois pas assez fondés, viennent de ce que la petite, en te prenant la main, à côté de mon doigt, la bague, elle l'a ornée, bague ornée d'une pierre rare que je portais sans cesse, comme tu le sais très bien, eh bien, elle me l'a ôtée des mains. » C'est un souvenir bien cher d'un temps qui n'est plus et qui me sera pénible d'oublier. Est-ce possible ? Au nom du ciel ! S'écria Ludovic à demi-voix. Mais non, ça se peut pas. Une telle figure, de tels yeux, un regard pareil ne peuvent appartenir à une créature trompeuse. Bon, tu as laissé tomber, tu as perdu l'anneau. Nous verrons, reprit Euchard. Mais la nuit commençait à devenir plus épaisse. Allez, retournons dans la ville. Devant la porte de la demeure de Ludovic se trouvait un domestique couvert d'une riche livrée. Il s'élança vers lui en tenant une carte à la main. À peine Ludovic eut-il jeté un coup d'œil qu'il embrassa son ami avec aussi de véhémence qu'il avait fait sous la porte de la ville. « Appelle-moi, s'écria-t-il, le plus heureux des mortels. Comprends mon bonheur, cher ami. Mêle tes larmes aux miennes. »« Eh bien, qu'est-ce ? » dit Euchard. « Que peut donc apporter une simple carte de si magnifiquement sublime ?»« Ne t'éblouis pas, répondit Ludovic, du paradis que je vais ouvrir devant tes yeux. » « Voyons, dit Richard, quel est l'immense bonheur qui t'attend ?»« Mais sache-le donc, et doute, crie, bugie si tu veux. Je suis demain invité à un ballet et à un souper chez le comte Vanderpuck. Victoire, victoire, adorable victoire !» « Eh bien, et l'adorable mignon ?» reprit le char. Mais Ludovic, tout en répétant d'une voix dolente, « Victoire, Marie, victoire !» s'élança dans la maison.